La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
La bibliothèque de Radio Orient reçoit Aurélien Simon et Iliès Messaoudi pour La Kaïna, reine de Tamazra, un livre illustré publié chez Orient Éditions. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Alors Aurélien Simon, vous avez écrit le texte, Iliès Messaoudi, vous avez conçu les illustrations de ce très beau livre en employant la technique de peinture sous verre que vous aviez déjà utilisée pour votre série picturale Les Nuits de Scheherazade et vos illustrations des amours d'Antar et Abla chez le même éditeur. Alors d'abord bravo pour ce texte poétique où chaque mot est à sa place et pour ces illustrations qu'on a plaisir à regarder, des illustrations extrêmement colorées et fourmillant de détails. Je vais d'abord donner la parole à Aurélien Simon pour nous rappeler qui était la Kaïna, la célèbre reine des Berbères.
La Kaïna, en fait, c'était une grande reine de l'Afrique du Nord qui a eu l'occasion de prendre les rênes du pays lorsqu'elle a voulu s'opposer en fait à l'occupation des Arabes dans le pays. À la base, elle était simplement chef de son village et elle a grandi par le combat, par son opposition frontale à cette invasion. Elle a grandi en reine.
Et la Kaïna est devenue une figure légendaire, mais elle a vraiment existé. On la connaît essentiellement grâce aux auteurs arabes du Moyen-Âge. Vous vous êtes documenté sur le personnage, mais face à une personnalité aussi romanesque, est-ce qu'il faut imaginer ce qu'on ne sait pas avec certitude?
Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce que font même les historiens. Moi, j'ai dû, vu que c'est à la base, c'est quelque chose qui est quand même, c'est une culture qui m'est étrangère. Il a fallu que je me documente énormément. Je pense que la meilleure façon de se documenter, c'était de retourner aux sources historiques pour essayer de raconter l'histoire telle qu'elle a, en tout cas le plus plausiblement pu arriver. Donc j'ai lu beaucoup les historiens. Alors j'ai commencé par lire les historiens, effectivement, arabes. Je me suis rendu compte que c'était peut-être une vision un peu déformée aussi de l'histoire, parce que c'était la vision des vainqueurs. Donc en complément de cela, il a fallu que je retourne également plutôt sur l'historiographie récente qui a commencé dans les années 70 avec Mohamed Talbi, dans les années 80 avec Gabriel Camp. Et donc ça m'a donné du matériau pour essayer de raconter l'histoire sans faire partie de cette culture, pour essayer de raconter cette histoire le plus authentiquement possible.
Alors, Iliès Messaoudi, comment avez-vous décidé de la représenter? Il a fallu imaginer le visage, la Kaïna, sa chevelure, ses vêtements.
Alors, moi, le personnage de la Kaïna, c'est ma grand-mère berbère qui m'a inspiré le personnage de la Kaïna, parce qu'elle avait les cheveux roux, elle avait des tatouages berbères un peu partout sur le corps. Et elle avait des yeux verts, un visage lumineux comme celui de la Kaïna que j'ai imaginé. Et après, donc j'ai voulu un peu concilier la culture berbère et la culture arabe parce qu'il y a toujours ce dilemme en fait d'origine, en tout cas en Tunisie et dans le Maghreb, en utilisant donc la peinture sous verre qui est d'origine arabe à la base, et la partie textile et ébéniste et donc boiserie des berbères. Donc quand on voit le cadre, ça fait référence aux comme des arcades en fait qu'on trouve dans les maisons à l'intérieur, comme des têtes de lit, comme des décors de mariage en Tunisie qui sont toujours pratiqués, qui sont assez kitsch en fait. Et après, il y a une partie textile qui est la frange qu'on trouve aussi c'est un élément décoratif donc esthétique et qui symbolise pour moi aussi l'histoire qui était en train de disparaître et d'être râpée comme dans une râpeuse de papier, mais que nous, donc Aurélien et moi, avons soufflé cette poussière sur cette partie de l'histoire.
Alors, dans le livre, la décision de combattre les envahisseurs est prise lors d'un conseil. L'Achaïna écoute les avis de ses fils et elle tranche pour la résistance armée en affirmant « notre culture a traversé les âges par notre force de résistance ». C'est finalement toujours le cas aujourd'hui.
Oui, c'est ce que Gabriel Camp dit justement dans tous ses écrits sur les Berbères, parce que c'est un grand spécialiste des Berbères que j'ai lu beaucoup sur ce sujet. C'est la permanence de cette culture qui existe depuis des milliers d'années, moi qui m'a fasciné. Et j'ai voulu tenter d'expliquer comment les Berbères sont parvenus à cette résistance finalement temporelle.
Alors, votre livre nous permet d'entrer de plein pied dans la culture et dans l'histoire berbère. Il y a des rites ancestraux qui sont décrits, comme le rassemblement devant l'Imed Rassen. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, l'Imed Rassen, c'est un mausolée donc qui a été construit il y a des milliers d'années, même des milliers d'années avant la Kaïna, en l'honneur d'un grand roi berbère, qui est respecté par toutes les tribus, qui concerne un peu toutes les tribus. Et donc c'est un symbole que la Kaïna utilise un peu intelligemment aussi, un peu stratégiquement, pour forcer l'union des tribus berbères. Parce que à cette époque, et d'ailleurs souvent dans l'histoire des berbères, les berbères ne sont pas un peuple uni. Les berbères sont des tribus éparses dans toute l'Afrique du Nord. Donc l'intelligence de la Kaïna à ce moment-là, c'est de réunir tout le monde autour de ce symbole pour et autour d'une cause, donc l'invasion, la résistance à l'invasion des Arabes, pour forcer l'union, pour réussir cette union qui a été très peu réussie dans l'histoire des Berbères.
Alors, votre livre est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les montagnes berbères, et c'est la magie de l'illustration. Ilyes Messaoudi, vous avez recréé des paysages qui existent toujours aujourd'hui.
Oui, bien évidemment, en fait. Donc, il y a les montagnes, il y a Matmata, par exemple, c'est que des habitations troglodytes qui existent toujours, qu'on peut visiter, et donc c'est des couleurs terre et avec de la végétation bien sûr, avec donc il y a du blanc, il y a de la peinture blanche aussi, il y a plusieurs éléments qui existent toujours en Tunisie en ce moment et qu'on peut visiter. Mais bien sûr, moi j'ai essayé d'imaginer aussi des intérieurs et des extérieurs qui peut-être n'existaient pas à l'époque.
Vous avez recréé des châteaux dans ce livre.
Oui, la forteresse, oui, ça tout à fait, c'est complètement imaginé. Je l'ai imaginé complètement. Après, il y a
la forteresse de Magana, oui.
Ouais. Après, il y a le El Jam. Ça existe toujours. Donc, je l'ai reproduit à partir d'une photo, mais j'ai rajouté des couleurs, des formes, et il est reconnaissable en tout cas sur le tableau.
Ilyes Messaoudi, vous avez évoqué Matmata. La Kaïna est très populaire de nos jours en Algérie, en particulier chez les Berbères. Mais les Aurès, c'est un territoire, vous le rappelez, qui se trouve partagé entre l'Algérie et la Tunisie. Vous qui êtes tunisien, vous connaissiez l'histoire de la Kaïna avant d'illustrer ce livre ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que malgré que la vague islamiste en Tunisie, où il y a plusieurs gens donc qui veulent rayer cette partie de l'histoire parce que quand même c'est une femme, la société reste patriarcale, mais quand même il reste beaucoup de résidus d'histoire, de choses qu'on entend comme ça qui se transmettent par les générations, mais c'est pas acté dans les livres scolaires ou quoi. Donc, Donc on entend des choses, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, on ne connaît pas vraiment la vraie histoire. Mais la figure de la Kaina, elle est très 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 respectée. Et, donc on essaie de conserver cette figure par une certaine élite en Tunisie qui est progressiste. Mais c'est vrai que le livre, il est là pour mettre la lumière sur cette histoire et la relater. Avec beaucoup d'honnêteté historique, j'ai envie de dire.
En Tunisie, j'ai l'impression que c'est Mohamed Talbi, surtout, qui a beaucoup parlé de la Kaina et qui fait partie de cette mouvance progressiste dont tu parles justement. Et donc, je pense que en Tunisie, il y a deux visions de la Kaina, une vision très populaire, folklorique, et une vision plus historique et plus infantile,
plus pointue aussi. Qui n'est pas assez accessible à tout le monde.
Ouais, exactement.
Alors, l'une des caractéristiques aussi de la Kaina, c'est qu'elle accordait une grande importance aux rêves.
Oui, alors ça, c'est pour la partie un peu, on va dire, fantastique du mythe de la Kaina. D'ailleurs, les Berbères ont toujours cette croyance, je pense, qu'il y a une certaine vérité dans les rêves, comme dans beaucoup de cultures d'ailleurs. Dans le livre, on s'est servi du rêve pour introduire cet élément qui n'est pas vraiment historique, qui est plus légendaire de la Kaina, c'est-à-dire ses dons de voyance. On lui prête dans le folklore berbère, en tout cas, on lui prête la capacité de voir l'avenir, et c'est ça qui lui aurait donné ses plus grandes victoires durant son combat. Et donc par touche, parce qu'on voulait pas non plus sombrer totalement dans le récit fantastique, mais par touche, en tout cas, on parle de cette aura autour du personnage de la Kaina, et par le rêve, donc elle reçoit la visite d'un génie berbère, donc qui existait avant l'islam, qui faisait partie des croyances berbères. Elle reçoit cette visite d'un génie qui la guide en fait sur le chemin de la paix.
Et la figure du lion apparaît à plusieurs reprises dans le livre.
Moi, j'étais très étonné en fait, en faisant mes recherches, d'apprendre que il existait des lions à cette époque dans les montagnes des Aurès. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit c'est une figure importante, parce que je l'ai retrouvé en fait aussi dans la culture berbère en lisant toujours Gabriel Camp. Qui explique que les Berbères vénéraient des figures animales comme le taureau, le lion, et que forcément le lion comme dans d'autres cultures signifie la royauté, la noblesse, et la noblesse dans le sens la noblesse d'une personne, d'un personnage. Et donc j'ai trouvé que cette figure était très intéressante. C'est moi qui l'ai introduite 3 fois donc dans le récit comme une rime, pour en faire à la fois donc un symbole des rois passés des Berbères, un symbole d'une divinité guidant le personnage de la Kaina, et également donc un animal simple qui instaure une sorte de paix naturelle entre les Arabes et les Berbères.
Ce que l'on comprend quand on vous lit et quand on vous écoute aujourd'hui, c'est que finalement, la Kaina, c'est un personnage qui suscite des interprétations. Il y a eu énormément de livres sur la Kaina, mais votre livre est totalement différent des autres qui ont été publiés avant vous.
C'est ce qu'on a essayé de faire. Merci de nous le dire, ça me conforte dans l'idée qu'on a peut-être réussi à se distinguer des autres livres qui ont été faits sur le sujet. Déjà le retour vraiment à essayer de retrouver une authenticité historique le plus possible, et ensuite les illustrations d'Ilias qui, à mon avis, donnent une identité vraiment unique au livre, qui parle de sa culture, qui parle de ce que sa grand-mère lui a transmis, de ce que son pays lui a transmis, de sa sensibilité plus que tunisienne, j'ai envie de dire nord-africaine. Et vu qu'en plus il est artiste contemporain, il permet un pont aussi entre le entre le passé et le présent, entre donc l'histoire et la légende et le contemporain. Et je trouvais ça intéressant de réhabiliter cette histoire pour la présenter sous un nouveau jour, je l'espère, devant un public contemporain.
Et ce qui est frappant avec la Kaina et votre Kaina, c'est combien elle est moderne. C'est une figure féministe importante encore aujourd'hui.
Oui, bien sûr. En fait, nous déjà, avec Aurélien, on est parti. C'est-à-dire la Kaina, c'était le point de départ d'une série de livres qui traite des femmes fortes dans le monde arabe et précisément au Maghreb. On a commencé avec la Kaina, qui est une figure tout à fait féministe avant l'heure.
Ilyes a peint aussi sur un personnage revisité de Shahrazad.
Oui, moi, ça vient ensuite. Donc, c'est une suite logique de Shahrazad. Il y a Shahrazad, et après la Kaina, après il y aura Didon, il y aura plein d'autres femmes fortes qui se seront mises à la lumière, soit par des livres ou par la peinture.
Alors il faut préciser que c'est un livre écrit sous forme de conte, un conte très poétique, il se lit rapidement, il peut intéresser autant les adultes que les enfants. C'est un livre à lire en famille qui peut permettre à chacun d'aller plus loin pour s'intéresser à l'histoire un peu plus en profondeur après.
Ouais, c'était le but au départ, c'était essayer de n'exclure aucune catégorie de lecteurs, parce que je pense que c'est une histoire universelle qui s'adresse à tout le monde, et il faut la raconter aux enfants, il faut que les adultes la redécouvrent également, et cette possibilité de pouvoir le lire ensemble également, du fait qu'il y ait les images, du fait que le texte soit suffisamment grand pour être lu par plusieurs personnes autour du livre. Ça, c'était important, je pense, d'en faire un livre presque qui réunit les gens, un peu comme la Kaina a réuni les peuples de la Tamazra.
C'est un peu la revanche de la Kaina, puisque elle a finalement perdu son combat.
Elle l'a pas perdu vraiment. Parce que justement c'est l'essence même de la culture berbère, c'est que les berbères sont constamment envahis, constamment occupés, leur pays ne leur appartient pas vraiment, et en même temps la culture berbère, ça n'est pas qu'un pays. La culture berbère, c'est une essence, c'est un esprit, et cet esprit demeure et survit même si le pays est occupé, même si il est envahi par quelques civilisations extérieures, la culture berbère demeure.
Merci Aurélien Simon et Ilyes Messaoudi. J'invite évidemment les auditeurs de Radio Orient à lire La Kaina, reine de Tamazra, un livre illustré publié chez Orient Édition, un livre véritablement vraiment magnifique. Merci.
Merci à vous.
Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.